Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Ensemble qui donne la parole aux associations. Radio Grand Ciel, Guy Wagner. Nous recevons aujourd'hui l'association pour le droit de mourir dans la dignité, ADMD, représentée par Josette Leblévesque, déléguée pour l'Eure-et-Loire. Cette émission est différente des autres que vous écoutez chaque mois ou chaque semaine, ça dépend des endroits, puisque nous avons modifié notre schéma de diffusion, qui est habituellement de 30 minutes et aujourd'hui d'une heure. Pourquoi ? Pour vous permettre d'avoir un éclairage sur l'accompagnement en fin de vie dans le cadre de la législation française. Nos invités sont, autour de la table, le docteur Frédéric Durier, praticien hospitalier du service cancérologie de l'hôpital de Chartres, qui nous présentera les lois Leonetti sur la fin de vie. Hélène Mignot, ex-directrice des soins à l'hôpital de Dreux, et Éric Zerbini, ex-cadre de santé responsable des soins palliatifs et douleurs à l'hôpital de Dreux, et Pierre Coat, professeur d'éthique.
Bonjour.
Donc, nous vous remercions d'avoir accepté de venir participer à cette émission. Et nous allons commencer maintenant avec Josette Leblévesque pour la présentation de l'association.
Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors, en fait, l'ADMD, donc, Association pour le droit de mourir dans la dignité. J'en fais partie depuis très longtemps pour avoir eu à accompagner dans ma famille beaucoup de personnes vers la mort. Ça n'a pas toujours été facile. Voilà. Et moi, j'ai déjà 70 ans et un long passé de malade qui fait que je me suis remise en question souvent. Et puis, en 2012, il n'y avait plus de délégués en Eure-et-Loire. Donc, j'ai pris le poste parce que j'étais encore assez en forme, malgré mon âge. Donc, je me suis pensée un peu sur la question parce que c'est pas évident. Depuis 1980 que la DMD a été inscrite vraiment au registre de la préfecture, je me suis demandé d'où venait cette association. Alors, j'ai bien trouvé évidemment un journaliste, Kael Landa, et puis un médecin d'ailleurs, Simon, donc qui ont commencé. Mais j'ai cherché pourquoi. Et j'ai trouvé que... En fait, ça vient que nous, des années 70, hein, on est un pays laïque, faut pas l'oublier, et il y a eu la liberté de penser, et dans cet esprit de liberté individuelle qui a été créé l'association ADMD. L'association, on en avait parlé, les gens en ont parlé déjà à cause de l'IVG, les gens cherchaient une liberté. Et là, il y a eu aussi le fait qu'il y a eu des médecins qui étaient révoltés devant les souffrances de leurs malades, qui ont pratiqué des euthanasies clandestines. Et puis d'autres qui sont venus vers l'ADMD pour chercher la liberté et la dépénalisation de ces actes qu'ils faisaient, en fait. À partir de là, eh bien, ça a été très long avant que quelque chose bouge. Parce que c'est 1980, on est en 2020, 40 ans, et ça fait 40 ans que tout le monde se bat à droite, à gauche. Alors, si on écoute un petit peu la radio, on nous dit, eux, ils veulent, c'est des assassins, on ne se comprend pas, ils profitent des drames. Oui, il y a des drames, mais on ne les cherche pas, les drames. Il ne devrait pas y en avoir, mais bon, il y en a. Ça a commencé vraiment à bouger en 1984. Lors du congrès mondial des ADMD à Nice, où des centaines de délégués se sont fait entendre. La presse a relayé largement les revendications des Français et c'est alors le commencement de la réaction de l'État qui crée des missions, des groupes d'observation sur les conditions de la mort des malades dans les hôpitaux. La DMD n'a pas arrêté de dénoncer les abus, bien sûr, à chaque fois qu'on voyait quelque chose qui était un cas. On les appelait les cas, mais malheureusement, c'est la vérité. Ce qu'il faut savoir, c'est que jamais le nombre d'adhérents de la DMD n'a diminué. Tous les ans, plus 10%. Depuis 1980, pas une fois, les adhérents ont diminué. Nous sommes on a démarré donc pratiquement à zéro, mais en 2020, on est à 73 000. Et on continue. En 2002, effectivement, le ministre de la Santé, Kouchner, lui, a commencé à demander à faire une première avancée sur le droit des malades, le respect des volontés de leur volonté, le droit au soulagement de la douleur et la possibilité de désigner une personne de confiance si le malade ne peut plus s'exprimer. C'est déjà une première avancée. Mais il y aura encore bien d'autres drames avant qu'on puisse accepter de faire une autre loi, et la première loi Leonetti 2005, après encore un drame, parce qu'il y avait eu, donc c'était Vincent Humbert qui a demandé à sa mère de l'aider à mourir. Et là, c'était difficile à prendre. Et ça a continué jusqu'à, jusqu'à 1900. Alors, la venue des soins palliatifs en France. Alors là, on avait un petit truc, parce que moi, je n'ai pas trouvé la date exacte. Mais c'est quand même très longtemps après 1980 qui était le départ des soins de la DMD. Donc, on a trouvé les soins palliatifs qui arrivaient, eux aussi, après tout ça, après des missions d'observation, je dirais. Et malgré, alors le droit, on a eu donc des avancées, le droit au refus des soins, la sédation double effet. Alors, je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, mais ce qui permettait de que le malade reçoive vraiment le traitement approprié. Alors, il y avait plusieurs cas, je me souviens bien de cette loi. C'était, est-ce qu'il est en fin de vie ou pas? Est-ce qu'il est encore en état de s'exprimer ou pas? Et selon l'état du malade, on pouvait augmenter les doses, même si ça avait pour effet de faire mourir le malade. Et ça, ça fait partie donc des avancements de la loi des lois de Leonetti. Mais ça n'a pas suffi encore. Donc, on a eu le rapport Sicard, du coup, puisqu'on avait M. Hollande qui nous avait promis promesse 21, qui devait faire la loi comme on lui demandait. Le résultat, on ne l'a pas. On a fait faire un rapport Sicard. Après, il y a eu le Conseil des citoyens. Chaque fois, ça a été les Français voudraient une loi qui leur permette de choisir.
Et alors, en Eure-et-Loire, vous êtes organisé comment? En tant qu'association? Vous êtes sur les deux hôpitaux d'Eure-et-Chartres? Comment vous procédez et quelle est votre action sur le terrain?
Alors, en Eure-et-Loire, et comme dans tous les autres départements, le délégué va partout. Si un adhérent m'appelle ou quelqu'un veut un renseignement, je ne peux pas lui donner au téléphone. Ou même s'il est hospitalisé, il a besoin d'aide, je me déplace. J'ai été formée en tant que représentante d'usagers aussi, parce qu'il y a eu donc des avancées pour la DMD. Donc, ce qui me permet d'être représentante d'usagers sur l'hôpital de la Loupe, et qui m'a permis aussi d'intégrer le comité d'éthique, parce que ça m'intéressait, parce que tout m'intéresse de toute façon, c'est la vie humaine, la souffrance, puis j'en ai vu beaucoup. Donc j'ai fait partie du comité d'éthique, et puis je fais partie de la maison des usagers de Dreux, en tant que déléguée, déléguée de l'ADMD, parce qu'on on fait des permanences. D'ailleurs, on a ouvert aussi une permanence à l'Hôtel Dieu à Chartres, où on reçoit quand même beaucoup de monde, des gens qui veulent savoir, et au moins ils savent où s'adresser. Que ce soit pour rédiger des directives anticipées, que ce soit pour savoir leurs droits sur le mandat express pour avoir des explications sur leur dossier médical, J'ai aussi des formulaires pour les demandes de dossiers médicaux. J'essaie d'avoir un maximum de renseignements sur les lois actuelles pour pouvoir aider les adhérents ou les non-adhérents d'ailleurs. Puis il faut savoir aussi que ces directives anticipées à la DMD, nous avons créé le fichier national des directives anticipées. Chaque adhérent et même les non-adhérents sont répertoriés grâce à l'informatique. Le progrès fait ça. Et comme les DA sont contraignantes pour le corps médical, on peut aller vérifier si un malade a bien rédigé des directives anticipées et si on doit le... Voilà, c'est ce qu'il donne. Oui ou non, s'ils sont enregistrés. Maintenant, ce n'est pas une obligation, je le dis toujours, c'est une précaution. Mais le délégué départemental, il a énormément de travail s'il veut.
Et vous êtes nombreux ensemble? Vous êtes un petit groupe ou vous êtes...
Nous sommes un groupe. À Chartres, c'est un très bon groupe. À Dreux, on est un petit groupe, mais c'est effectivement Chartres le plus grand groupe. Et heureusement d'ailleurs, ils étaient là tout à l'heure, ils auraient bien voulu être là, parce que ça les intéresse. Et puis, d'ailleurs, quand on fait le forum des associations, il n'y a qu'à regarder mon stand, le stand ADMD est fort fréquenté, et il y a beaucoup de gens qui nous aident. On est toujours minimum une dizaine dans le stand à pouvoir renseigner les gens.
J'ai fait cette démarche parce qu'effectivement, je me suis aperçue que la personne de confiance a beaucoup progressé, parce que dans les hôpitaux, maintenant, on pose la question simultanément. Donc, quand la personne rentre, on pose la question et normalement, on propose à la personne de remplir cette fiche sur la personne de confiance. Par contre, sur le directive anticipée, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à aborder cette question, parce que bien évidemment, il est en lien avec la mort. Et actuellement, c'est vrai que la mort dans notre société a vraiment été mise beaucoup de côté. Et en définitive, ça ressort ce problème au moment où il y a des cas comme le Calembert ou des cas dramatiques. Et c'est là qu'on s'aperçoit que c'est quand même intéressant de pouvoir donner son opinion sur ce qu'on envisagerait à ce moment-là. Donc moi, c'était ma démarche. Je ne suis pas particulièrement militante, mais je pense que tout le monde devrait avoir la possibilité de définir sa personne de confiance et de donner ses directives anticipées, puisqu'il n'y a pas de date. Si vous voulez, vous pouvez donner vos idées sur vos volontés, mais par contre, il n'y a pas de date. C'est enregistré. À ce moment-là, ça peut jouer quand il y a un conflit familial. On a vu ce que ça pouvait donner dans certains cas. Et je crois que vraiment, ça, c'est un travail à faire en profondeur.
Et s'il n'y a pas de date, ça veut dire que la personne peut revenir sur sa décision à tout moment.
Oui. À tout moment. Vous allez sur votre ce qu'il y a, ce qu'on appelle un espace adhérent. Vous tapez votre nom, c'est un code qu'il y a sur votre carte d'adhérent, et vous allez sur vos directives anticipées, parce que je le dis toujours, nous, on a prévu quand même plusieurs cas, 1, 2, 3, parce que la première intention, ça va être peut-être le père, la mère, les enfants, et moi je dis attention, ils sont investis peut-être d'affection, c'est peut-être plus dur. Alors je dis toujours, bon, de toute manière, on peut tous mourir les uns avant les autres, et moi je leur dis toujours, prévoyez, parce que vous pouvez survivre à tout le monde.
C'est juste que, enfin, vous faites un lien très proche là entre l'ADMD et les directives anticipées. C'est juste pour que les auditeurs soient bien au clair que il y a absolument aucun rapport. Enfin, je veux dire, les directives anticipées, c'est pas lié à l'aide à la mort d'une unité. Enfin, on peut donner des directives anticipées sans être membre de l'aide à mourir dans la
bien
dignité.
Sûr, bien sûr, oui.
C'est très sûr, mais je ne suis pas sûr que c'était si clair dans ce que vous disiez tout de suite. Mais... Pardon.
Chaque citoyen est tout à fait à même de pouvoir écrire ses directives anticipées et les donner. Mais les directives anticipées, c'est intéressant, mais c'est très insuffisant, me semble-t-il, dans la pratique quotidienne. Directives anticipées qui sont un papier écrit ont beaucoup de sens, je trouve, lorsqu'elles deviennent des discussions anticipées. C'est-à-dire lorsque, à partir d'un écrit, on est capable de discuter avec ses proches et d'amener une dialectique qui va permettre que les proches puissent intégrer aussi notre propre volonté sur ce sujet. Donc les directives, c'est extrêmement intéressant, mais peut-être à peine suffisant si elle reste à l'état d'un papier écrit. Voilà. Il faut vraiment que chacun, puisque chacun est amené à écrire ses directives, puisse aboutir et avancer vers une discussion anticipée avec ses proches, quels que soient les proches. Je crois vraiment que c'est très, très important.
Alors, une question qui vient à l'esprit, c'est quoi la fin de vie ? Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table, là, suivant votre expérience ? Est-ce que ça représente, rapidement, bien sûr, cette définition, qu'est-ce que la fin de vie ?
Moi, je parlais du dernier fin de vie que je viens de vivre. Alors, comme c'est récent, j'en parle mieux, mais j'ai mis le temps quand même. Donc, j'ai été confrontée l'année dernière à la mort, à la fin de vie de ma mère. Bon, 98 ans, en me disant, bon, elle a suffisamment vécu. Son souhait était de mourir chez elle. C'est pour ça que moi, nous, on parle ADMD, choix. Elle m'avait tout écrit. Donc, j'avais pas d'hésitation. Bon, elle avait un AVC, je l'ai quand même emmenée à l'hôpital parce que quelques jours pour voir ce qu'on faisait. À l'hôpital, ils m'ont dit, de toute façon, il n'y aura pas grand-chose à faire. Mais j'ai dit, dans ce cas-là, je la ramène à la maison, puisque c'est son souhait d'être dans sa chambre. Donc, retour à la maison. Le secrétariat m'a fourni gentiment les documents nécessaires aux soins de confort prévus dans ce cas, avec les ordonnances de soins infirmiers à domicile, ordonnance pour soins palliatifs à domicile, ordonnance de service pour l'aide à la toilette. Mais on ne tombe pas malade en été. Alors j'ai fait tous les services que je connaissais, parce que je les connais tous, bien sûr, les gens. Et on m'a répondu, il n'y a personne, alors débrouillez-vous, pour ramenez-la aux urgences. Et là, je me suis dit, mais attends, ma mère ne dépend pas des urgences, elle veut mourir à domicile. Les urgences sont encombrées, on en parle assez. Je sais ce que c'est, les brancards. J'ai dit non. Bon, je la ramène chez moi. Alors, comme nous sommes une société, moi je suis de la campagne, le résultat, j'ai fait comme tout le monde dans le temps. On a fait ça tout seul, avec les voisins. L'agonie n'a pas été si facile que ça.
Alors, on va passer maintenant peut-être en expliquant un peu les lois. Leonetti, comment actuellement sont les relations entre les hôpitaux, les patients, suivant la loi française ?
La loi actuelle, c'est la loi dite Leonetti-Claeys, qui date de 2016, qui est en fait un processus de maturation, d'intégration des soins palliatifs, qui ne sont pas d'abord une question législative, mais qui sont quand même d'abord une question d'humanité, profondément. Et la question de la prise en charge des soins palliatifs date en Occident de la fin des années 60, hein, au Canada et en Angleterre, avec Elisabeth Kübler-Ross. Et puis en Europe continentale, et singulièrement en France, plus tardivement, depuis le début des années 1980, puisque un des pionniers, c'était le docteur Maurice Abivène, qui avait créé la première unité de soins palliatifs au tout début des années 80 à Paris. Et la prise en compte de la nécessité d'un accompagnement spécifique de la fin de vie date de cette époque-là, et cette réflexion qui était d'une médecine un peu triomphante curative, passer vers une médecine qui soit une médecine d'accompagnement et qui n'avait plus pour but de guérir, puisqu'on ne savait pas, mais qu'est-ce qu'il y restait à faire lorsqu'on ne pouvait plus guérir. Progressivement, les choses ont évolué. Tout à l'heure, Madame Leblévesque en a parlé. Un des premiers textes législatifs en France, c'est la loi dite Kouchner de 2002, qui institue non pas le médecin décide, mais le médecin, ou plutôt dans la loi Kouchner, le malade décide avec le médecin de ce qui est bon pour lui en termes de traitement, y compris pour les questions attachant à sa fin de vie. Et le mot « avec » est extrêmement important parce que c'est un mot qui est impliquant, c'est-à-dire que ce n'est pas le malade tout seul qui décide, c'est le malade avec, impliquant le médecin, et le médecin est avec son malade, impliqué lui aussi, pour pouvoir faire en sorte que le malade aboutisse à la meilleure décision, la meilleure décision étant celle que le malade prendra pour lui-même. En tout cas, dans nos comportements, dans notre intégration assez autonomiste du sujet, on est un peu dans ça. Cette loi a été amendée, évoluée, et puis a abouti en 2005, la loi dite Leonetti 1. Cette loi Leonetti 1 avait pour but essentiellement le respect du droit des malades d'interrompre un traitement, s'ils le souhaitaient, ce qui n'était pas, semble-t-il, alors ce qui était la pratique très fréquente habituellement, que ce soit à l'hôpital ou en ville, mais ça n'était pas toujours le cas, et parfois le malade se, entre guillemets, soumettait, même si on a écrit beaucoup là-dessus, mais soumettait à l'autorité médicale considérée comme trop paternaliste. Donc cette loi imposait le fait pour le malade d'avoir le droit d'interrompre un traitement et posait comme absolu l'interdiction de l'obstination déraisonnable. C'était la première fois qu'on écrivait l'obstination déraisonnable. Et la loi ne définit pas ce qu'est l'obstination. Elle ne définit pas non plus ce qui est déraisonnable, laissant extrêmement ouvert la possibilité, dans l'esprit de la loi Kouchner, du « avec », médecin avec malade, avec proche, de définir pour lui-même ce qu'il considère être déraisonnable et ce qu'il considère être une obstination déraisonnable. Et au nom de ça, la loi Leonetti exprimait l'absolue nécessité de soulager les souffrances et proposait d'imposer les soins palliatifs comme obligatoires à tout soignant en disant, quitte à ce que le malade soit soulagé, on autorise le double effet, c'est-à-dire que on donne des médicaments pour supprimer la souffrance, quitte à ce que ce médicament, mais non pas ayant pour intention d'abréger la vie, mais comme effet secondaire indésirable, pouvait aller jusqu'à ce que la vie soit abrégée. Et la loi Leonetti 1 posait les prémices, non pas de faire mourir, mais de laisser mourir. Et c'était quelque chose qui était déjà très important, et ce qui, en termes éthiques, est radicalement différent. Et puis, en 2007, cette loi a été assez mal connue, parfois mal appliquée, selon différents critères. Et puis, en 2016, est apparu le fait qu'il fallait faire évoluer la loi pour des motifs sociétaux, politiques, divers et variés. Et le gouvernement de l'époque a proposé à deux députés, Alain Claisse et M. Leonetti, de refaire une loi. Dans le but de faire évoluer la première loi et surtout de l'évaluer et de la faire évoluer. Et cette deuxième loi, Leonetti, elle aboutit à encore plus insister sur la nécessité de développer les soins palliatifs, le posant comme un droit pour tous les malades à l'horizon de la faisabilité en termes de personnel, en termes de locaux, en termes de acceptation de la loi, et puis vise à proposer que le malade ait le droit de demander, sous certaines conditions très précises dans la loi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit atteint d'une maladie incurable, et que cette maladie incurable entraîne des souffrances réfractaires au traitement, quel que soit le traitement, et quelles que soient ces souffrances, qu'elles soient physiques ou psychiques, au sens large du terme. Et à partir du moment où, c'est dans ce cadre très précis d'une maladie incurable allant entraîner la mort chez un patient dont la souffrance est insupportable, la souffrance étant exprimée par le malade et par lui seul, le malade a le droit de demander un arrêt de tous les traitements inutiles et une sédation profonde. Cette sédation profonde, elle a fait beaucoup parler d'elle. En fait, cette sédation profonde, dans l'esprit de la loi, elle est proposée aux malades en toute fin de vie pour supprimer des symptômes que les médicaments, les traitements, l'accompagnement au sens très large, qu'ils soient médicamenteux ou pas, hein, faut dépasser très largement la question du médicament, que l'accompagnement n'arrive pas à faire passer. Et à ce moment-là, le malade peut demander l'arrêt des traitements. Et s'il demande l'arrêt des traitements, dans la mesure où l'arrêt des traitements va entraîner des souffrances supplémentaires, on propose une sédation, c'est-à-dire un endormissement du malade, et la sédation n'a pour but que de faire en sorte que le malade ne ressente plus les souffrances, et donc on le laisse mourir dans une situation d'endormissement qui permet qu'il ne ressente plus les souffrances et qui permet, dans une discussion préalable, de préparer le malade, la famille, les proches, mais aussi les soignants, toujours dans l'arrière-pensée du « avec », à comment on va pouvoir vivre ce temps d'endormissement qui est un temps d'au revoir, d'adieu, un temps de séparation, de préparation à la séparation. Cette loi Leonetti Claeys, elle propose également la rédaction à toute personne qui le souhaite, de la rédaction de directives anticipées. Ces directives anticipées ont été formalisées par l'HAS, mais par plein d'autres associations, et sont écrites ou proposées de façon différente selon le charisme ou la volonté de chaque association. Et elles permettent aux malades d'écrire ce qu'il imagine être ses souhaits au moment de sa fin de vie. Et vous concevez bien que pour quelqu'un en parfaite santé qui va bien, la perception de ce que pourrait être sa fin de vie est radicalement différente de quelqu'un qui est déjà entré dans un processus de maladie dégénérative, lentement évolutive, dont il perçoit que la mort est peut-être pour bientôt. Et donc les directives anticipées sont là pour essayer de donner les limites de ce qui paraît être raisonnable et déraisonnable aux soignants et aux accompagnants en général. Et ces directives anticipées sont opposables, c'est-à-dire que voilà, malheureusement, aujourd'hui, trop souvent, on voit des directives anticipées qui sont « je ne veux pas souffrir », et on ne sait pas très très bien ce qu'il faut faire avec ça. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que ces directives doivent être le lieu d'une discussion anticipée, c'est-à-dire de proposer aux malades. Et toujours, j'insiste, vraiment, je crois que c'est très important dans l'optique de l'accompagnement, du « avec », de l'implication du soignant et des proches avec celui qui est malade, de se dire « mais tu dis que tu ne veux pas souffrir, ça veut dire quoi pour toi ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Parce que finalement, le malade qui va pouvoir proposer à un de ses proches de devenir personne de confiance va avoir à discuter avec cette personne de confiance, non pas pour que la personne de confiance dise ce qu'elle souhaiterait, mais pour que la personne de confiance dise, à un moment donné, si le malade ne peut plus s'exprimer, ce qu'elle pense que la personne malade dirait en cette occasion.
Alors, la définition sur la fin de vie, pour moi, est assez importante, parce que c'est justement l'action des soins palliatifs qui se situe dans cette, je dirais, moi, une dernière tranche de vie. En général, on a parfois, l'habitude de dire que c'est la phase d'agonie de la personne. Alors, moi, je réfute effectivement en ce sens que les soins palliatifs sont quand même anticipent énormément avant. C'est-à-dire qu'en gros, dès l'annonce d'un diagnostic de maladie grave, on peut éventuellement dire que les soins palliatifs peuvent être mis en place. Et c'est ça qui est important à savoir, c'est-à-dire que dès ce départ d'annonce de maladie grave, la personne a besoin d'un soutien. Alors le soutien sera certainement humain, psychologique, etc. Mais les soins palliatifs peuvent commencer comme cela. Alors les soins palliatifs aussi, parce que j'ai entendu aussi une phrase qui m'a toujours un peu choqué quand on dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Les soins palliatifs sont des soins actifs. C'est-à-dire qu'en gros, on s'occupe de la personne dans un cadre d'activation des soins jusqu'à la mort de la personne. Alors, aussi bien dans les soins, aussi bien dans la prise en charge de la douleur que dans l'accompagnement de cette personne. Donc, vous voyez qu'il y a différents axes dans ces soins palliatifs autour de la personne malade. Les soins palliatifs s'occupent de la personne malade, de la famille aussi, dans le cadre d'un soutien familial. Mais je dirais que ça va même au-delà, en ce sens qu'on peut soutenir aussi les soignants qui ont souvent des difficultés professionnelles dans le cadre de la prise en charge de ces personnes-là. On se pose évidemment, quand on est soignant, beaucoup de questions, parfois. On a des fois des situations à gérer, des situations contradictoires. Ce qui fait qu'effectivement, ça peut entraîner la souffrance des soignants. Alors, ce qui caractérise aussi les soins palliatifs, c'est qu'ils se refusent à donner intentionnellement la mort. Donc ça, c'est, comment dire, une constante. C'est-à-dire qu'en gros, on pense qu'on a suffisamment. Et M. Duriez a expliqué dans ce qui concerne la sédation, par exemple. On a suffisamment de possibilités de soulager les personnes pour justement éviter l'euthanasie. Ça, je pense que c'est assez important, en ce sens que, comment dire, on est là dans le respect, je dirais moi, de la loi française, ni plus ni moins. Donc, le plus important, je dirais, c'est vraiment d'être très pointu, je dirais, c'est que ce terme qui me vient là pour l'instant, dans le cadre de la prise en charge de la douleur de la personne. C'est-à-dire qu'en gros, on va davantage s'occuper de la qualité de vie de cette personne jusqu'à la fin, hein, qui nous importe dans la douleur, mais il n'y a pas uniquement que la douleur physique, il y a aussi toutes les douleurs morales, ou ce qu'on appelle parfois la douleur totale ou la souffrance de manière globale. Hein. Il y a des fois des termes comme ça qui sont à définir, mais qui finalement se rejoignent. Alors je dirais que c'est aussi parfois même au détriment de la quantité de vie qui reste à vivre. C'est-à-dire, bon, là, on a parlé des obstinations déraisonnables, c'est un peu dans cette opposition-là aussi qu'on va définir les soins palliatifs. On va essayer donc de donner cette qualité de vie, quelle que soit, disons, cette situation, parce qu'on sait que l'échéance quand même de la maladie, que c'est la maladie qui fait mourir, il ne faut quand même pas l'oublier, la personne doit être accompagnée et soulagée. Voilà, en gros, pour, définir les soins palliatifs, ce que je dirais.
Alors, au niveau des hôpitaux, et de l'hôpital de Chartres ou de l'hôpital de Dreux, est-ce que tous les médecins peuvent être confrontés à ce problème de fin de vie d'une personne? Ou est-ce que ce sont des spécialités particulières où il faut former les médecins de façon à ce que la relation avec le patient se passe le mieux possible?
Il y a plusieurs questions dans votre question. Dans les hôpitaux, mais pas seulement dans les hôpitaux, hein, si j'ose dire, tout le monde ne meurt pas dans les hôpitaux, loin de là. Tous les médecins peuvent être confrontés à un accompagnement de fin de vie, oui, bien sûr. Ça fait partie du métier, si j'ose dire. Après, est-ce que tous les médecins sont spécifiquement formés à ça? Non, bien sûr que non. Que dans les hôpitaux, il y a accès possible à des équipes elles-mêmes formées qui peuvent venir en soutien, en appui, ça oui, hein, que ce soit à Chartres ou à Dreux ou dans d'autres hôpitaux, il existe des équipes tout à fait mobiles à l'intérieur qui comportent des médecins, mais pas seulement, aussi des infirmières, des psychologues, qui peuvent venir en appui des malades, mais aussi des soignants.
Vous vous rendez bien compte que c'est un domaine qui est quand même très large et que ces soins palliatifs concernent et bien évidemment les gens qui sont dans les hôpitaux, mais qui sont également en EHPAD. Et il ne s'agit pas uniquement que des gens hospitalisés à tous les niveaux. Vous avez donc les EHPAD, les soins de rééducation, etc. Dans tous les domaines de la médecine, vous pouvez avoir des soins palliatifs. À trouver, parce qu'en définitive, on se rend compte qu'à Dreux, vous avez 12 lits de soins palliatifs sur l'ensemble, puisqu'il y a des lits dédiés. Hein. Vous avez effectivement des services qui sont de 12 lits qui sont uniquement soins palliatifs. Et là, effectivement, vous avez une équipe absolument formée et vous avez vraiment des lits qui fonctionnent en soins palliatifs. Cela, c'est vraiment en quelque sorte la garantie. Après, vous avez effectivement des lits dédiés dans un hôpital. Et donc, Dreux, par exemple, c'est 12 lits. Je pense qu'à Chartres, ça doit être à peu près dans les mêmes chiffres. Vous imaginez qu'avec le nombre de personnes qui sont dans un hôpital et qui ont besoin de soins palliatifs, combien vont pouvoir bénéficier de cette prise en charge. Donc, il faut que la base même, c'est que l'équipe et le médecin du service appellent l'équipe mobile de soins palliatifs et pour lui demander qu'il intervienne dans le service auprès de ce malade. Et là, c'est vrai que, bon, vous avez, pour tous ceux qui ont vécu avec plusieurs équipes, c'est évident que ce n'est pas toujours évident pour une équipe d'appeler une autre équipe en se disant, ben là, on aurait besoin d'une aide. En quelque sorte, ce n'est pas toujours fait. Ça, je peux vous dire que c'est évident que ce n'est pas naturel. Et c'est vrai qu'il y a la douleur, il y a la famille, il y a le malade, etc. Mais pour reprendre en compte tous ces facteurs, c'est quand même pas évident. Donc, il faut absolument arriver. Et puis, vous avez cette équipe mobile de soins palliatifs qui est sur le département ou sur un secteur. Et on se rend compte que, là aussi, c'est pas évident de pouvoir la joindre. La preuve, on a eu un exemple tout à l'heure. Et surtout, vu les besoins avec le vieillissement de la population, il est évident qu'on a un manque, le territoire n'est pas suffisamment couvert et on a un manque réel de moyens. Donc je pense que le gros problème, c'est quand même de trouver les gens qui vont pouvoir bénéficier de ces soins palliatifs, de ces accompagnements qui sont effectivement, quand on les entend, soit dans la loi, soit dans ce qui est prévu, on se rend compte qu'il y a une inégalité dans les territoires. On en parle pour les prises en charge, pour les urgences, pour la maternité, etc. Mais on peut en parler aussi au niveau des soins palliatifs. Et ça, on n'en entend pas parler. Et donc, on a des cas vraiment de personnes qui souffrent encore. Je suis désolée, mais malgré notre arsenal, la douleur des patients n'est encore pas suffisamment prise en charge. Et je crois que les équipes ont beaucoup de mal à écouter les malades, et ça, je peux en reparler plus tard, mais les derniers échos que j'ai pu avoir de l'hôpital de Dreux ou d'un autre hôpital ou de la médecine de ville, c'est que la douleur des malades n'est pas encore suffisamment entendue et que entendre le malade, c'est quand même un des problèmes. Et c'est une façon de le reconnaître dans sa globalité et de reconnaître que c'est un être qui peut avoir une opinion différente de celle du médecin parfois. Donc il faut entendre cette douleur. Et on a beaucoup d'exemples en tête de gens qui exprimaient une douleur et on leur disait c'est psychologique, c'est ceci, c'est cela. Mais on a encore ce genre de problème. Et pour en revenir aux soins palliatifs, tout ça, ça fait partie, parce que c'est vrai que la douleur, souvent, c'est le départ. La désespérance, c'est souvent lié à un état de douleur et de mal-être important. Et c'est ces gens-là qui demandent à mourir de façon parfois violente.
Alors, dans le cas du palliatif, est-ce qu'il faut éviter l'opposition entre le curatif et le palliatif ?
Non, je dirais absolument pas. Il n'y a pas une barrière fixe. Et vraiment, je pense qu'il y a possibilité d'avoir des soins palliatifs, y compris dans le cadre d'actions curatives. D'ailleurs, je pense que la définition de la fin de vie telle qu'elle est conçue, c'est-à-dire qu'on peut commencer à prendre en charge de manière peut-être même psychologique, une personne dès l'annonce du diagnostic, ça veut dire qu'évidemment, tous les soins curatifs qui sont en lien avec une maladie grave vont là s'exercer. Et après, il s'agit de l'évolution de la personne, c'est-à-dire comment évolue-t-elle, comment la maladie plutôt évolue. Est-ce qu'il y a une guérison, est-ce qu'il y a une rémission, est-ce que la maladie se poursuit. Donc ça, ce sont des questions éthiques qui sont importantes à définir. Et puis je pense que les équipes, d'ailleurs, sont à même de pouvoir se poser ces questions éthiques. Mais là, vous avez toute la place des soins curatifs, mais en même temps, vous avez l'action palliative, c'est-à-dire que la prise en charge de la douleur, le soutien psychologique, le soutien de la famille, le soutien, comme je vous ai dit, des soignants, s'effectue avec les soins. Enfin, peuvent s'effectuer, si on les appelle, évidemment, avec les soins palliatifs.
En fait, en écoutant et en réfléchissant, les soins palliatifs est une expression qui devrait disparaître. En fait, cette notion de soins palliatifs s'est construite en réaction à une absence d'approche globale de la personne. Et la personne malade, comme disait quelqu'un de célèbre récemment, il faut d'abord considérer que c'est une personne avant que ce soit un malade. Et la médecine a pu, au moins en Occident, parfois oublier qu'on soignait des personnes et qu'on traitait des personnes. Et en fait, l'immense majorité de la médecine n'est que palliative. Curatif, qu'est-ce qu'on guérit en médecine aujourd'hui ? Pas grand-chose. On stabilise des situations, on arrive à améliorer des situations, on permet des durées de vie plus longues, mais des guérisons véritables, si on exclut la pathologie infectieuse et une partie de la chirurgie, tout ce qui est ailleurs, est pour la plupart palliatif. Et ce qu'on appelle aujourd'hui curatif, si on prend l'exemple de la cancérologie avec les traitements de chimio ou d'immunothérapie, même à des phases très précoces, ne sont très souvent que des situations palliatives. Mais ces situations palliatives vont être appelées curatives parce que finalement, en supprimant les symptômes de la maladie, on améliore la situation. Mais, et donc c'était Maurice Abiven, un des pionniers encore une fois de la médecine palliative en France, qui disait « son rêve, ça serait que ce terme de soins palliatifs disparaisse ». Parce que la médecine dans son ensemble aurait repris son rôle probablement ancestral de soigner la personne malade avant de soigner un malade, voire une maladie ou un cas. Et ça a beaucoup avancé, ça a énormément avancé. Et on n'est plus du tout comme dans les années 70, les choses ont vraiment pas mal avancé dans les têtes et dans la pratique. Il y a encore des tas de choses à faire, en sachant que plus on s'approche de quelque chose qui est bien, plus on s'aperçoit qu'il y a encore des choses à faire, parce que ça, la quintessence de la bonne santé, comme dit la définition de l'OMS, c'est quelque chose d'inatteignable, globalement, ou à peu près inatteignable. Qui, autour de cette table, ne serait-ce que là, se dirait « je suis en bonne santé » selon la définition de l'OMS, qui est un parfait bien-être physique, psychique et moral.
Alors justement, on a abordé le problème de l'éthique, là, tout à l'heure, dans vos propos. En tant que professeur d'éthique, comment vous situez un petit peu l'ensemble des soins palliatifs et autres ?
Je vais rebondir sur ce que disait le docteur Durier. Je me situe et comme professeur d'éthique et comme prêtre, et il se trouve que je me situe aussi comme personne et éventuellement même comme citoyen, et tout ça ne fait qu'un. Je trouve que c'est important d'abord de dire... On parlait de la médecine antique, enfin que évidemment ces questions-là, parce que on a toujours tendance, peut-être particulièrement en France, pour avoir eu la joie de vivre avant l'étranger, de penser qu'on a réfléchi ces questions depuis peu d'années. Alors en fait, il faut quand même bien qu'on redise pourquoi on les a réfléchies depuis peu d'années. On les a réfléchies depuis peu d'années, bon, parce que la médecine a énormément évolué, évidemment, c'est depuis. Alors il y a eu un bond après la Première Guerre mondiale, un autre après la Seconde, parce que les guerres obligent aussi à réfléchir autrement le rapport humain et le rapport sans doute à la santé, et puis l'évolution de la médecine depuis les années 70-80, et à la fois les greffes et les traitements contre le cancer, etc., ont obligé à réfléchir à les choses autrement. Et puis, tout simplement aussi, parce que ceci entraînant cela, le vieillissement de la population a fait aussi qu'on a quand même eu besoin de réfléchir les choses autrement. Mais à la fois, on les réfléchit autrement, mais un peu comme c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, de temps en temps, c'est aussi bon de revenir à des principes premiers. Je dis ça parce que j'étais un peu surpris tout à l'heure d'entendre, par exemple, Josette parler de la découverte de l'acte à double effet. Hein, l'acte à double effet, je rappelle que c'est le fait que, par exemple, on sait que probablement une sédation profonde va faire qu'une personne va sans doute mourir plus tôt qu'elle ne serait morte, à quelques jours près, et parfois, d'ailleurs, enfin voilà, on ne sait pas très bien, enfin d'ailleurs, on ne sait jamais très bien, mais enfin, probablement que, effectivement, la sédation entraîne, voilà, et en même temps, on le distingue de l'euthanasie, en ce sens que la sédation profonde, elle va entraîner la mort à plus ou moins long terme, l'euthanasie, elle, proprement dite, elle entraîne la mort à terme immédiat, puisque voilà, la mort est dans les minutes qui suivent. S'il y a une injection létale et que effectivement voilà qu'elle est bien faite et qu'elle est faite dans les conditions pour entraîner directement la mort, mais c'est pas du tout la même chose d'entraîner la mort, de poser un acte pour entraîner la mort et de poser un acte qui va sans doute accélérer le moment de la mort, mais qui n'a pas pour but premier cela, mais pour but d'abord d'aider la personne à ne plus souffrir. C'était juste pour resituer ce qu'est l'acte à double effet, mais je disais cela tout de suite pour dire que on parlait de l'acte à double effet, notamment qui avait permis de découvrir la loi Leonetti. Enfin, je pense que si vous lisez les Grecs antiques, c'est-à-dire, je parle de Platon et d'Aristote, l'acte à double effet, ça existe déjà. Enfin, je veux dire, il y a un tas de choses qu'on pense qu'on a inventées aujourd'hui, on ne les a pas complètement inventées aujourd'hui. Et en fait, la vraie question, je ne sais pas si c'est la question de l'avancée de la médecine et de... Mais il y a une autre question absolument fondamentale qui est la question du rapport à la mort, qui a aussi énormément évolué dans nos sociétés modernes. Parce qu'on parle de tout cela comme si on était dans le monde entier, parce que la France pense toujours qu'elle est le centre du monde, mais sans doute qu'on oublie qu'il y a 1 milliard d'Indiens et 1 milliard de Chinois, voilà, et on pourrait rajouter pas loin 1 milliard d'Indonésiens et dans tout ce coin-là, c'est-à-dire presque la moitié de la population de la Terre, enfin, pour attirer un peu les chiffres à mon avantage, pardon, mais je veux dire qu'ils pensent les choses très différemment, donc c'est important aussi de parce que la vraie question, c'est pas juste le rapport à la médecine, c'est le rapport à la mort tout court. D'ailleurs, c'est important pour ça d'être précis dans les termes. Ma chère Josette, nous ne sommes pas dans un pays laïque, vous en déplaise, nous sommes un pays dont l'État est laïque, et c'est pas du tout la même chose. Parce que le pays est certainement pas laïque, il est sans doute de plus en plus religieux, et il est profondément religieux. C'est-à-dire un pays, c'est un pays, un État, c'est un État. Et donc c'est important de dire qu'évidemment le rapport qu'on a au religieux, à la mort, mais je ne dis pas ça là, seulement comme prêtre, je dis ça comme philosophe en herbe, enfin, ça fait quelque temps que je ne suis plus tout à fait en herbe, mais voilà, je trouve que c'est important de réfléchir aussi les choses philosophiquement, quoi, hein. Et donc, mais en même temps, d'être précis sur les termes. Nous ne sommes pas dans un pays laïque, c'est l'État qui l'est. Mais le pays, il est composé d'une diversité de gens qui sont de différentes religions, sans religion du tout, qui s'interrogent, et d'ailleurs sans doute beaucoup essentiellement, de gens qui s'interrogent, qu'ils soient croyants ou qu'ils ne soient pas croyants. J'espère qu'en tout cas, ils s'interrogent. Donc, une fois qu'on a dit tout cela, c'est intéressant de se dire, c'est quoi du coup la fin de vie? Parce que c'était la grande question. Ben, là aussi, il faut peut-être revenir au philosophe premier. Hein. Enfin, je veux dire, philosopher, c'est apprendre à mourir. Moi, je me souviens, en terminale, j'avais ça marqué au fond de ma classe de philo. Et comme j'en avais 9 heures par semaine, je voyais cette phrase assez régulièrement. Quand on a 18 ans, ça reste assez théorique, mais en même temps, c'est un peu concret. Enfin, de toute manière, on est mortel à partir du moment où on a commencé à exister. Donc, c'est important de se dire que la fin de vie, ça commence avec la vie. Quelque part, ben, c'est un peu dramatique de le dire comme ça. Mais... Et en même temps, je connais un médecin que j'aime bien par ailleurs, qui d'ailleurs est là dans le studio, qui dit, Frédéric, hein, je t'ai entendu dire ça une fois, en fait, il y a un moment où on sait qu'on va mourir, puis un moment où on croit qu'on va mourir, c'est-à-dire qu'on devient croyant. Et c'est important aussi ça, de réfléchir ça. D'abord, je crois qu'il y a 2 rapports à la mort. Une chose est de penser le rapport à notre mort et le rapport à la mort d'autrui. Là, comme prêtre, comme pasteur, je suis dans une paroisse, il y a 250 enterrements par an, donc on accompagne beaucoup, beaucoup de familles en deuil. Je pense que c'est assez évident, vous voyez que ce n'est pas du tout une question d'être religieux ou pas religieux, que le rapport à la mort d'autrui est très différent d'une autre, parce que la mort d'autrui, on sait ce que c'est. C'est-à-dire qu'on a peur de perdre son mari, sa femme, ses enfants, ses parents, ses proches, ceux qu'on aime, ses frères et sœurs, etc. Mais parce qu'on sait déjà. Alors, même si on n'a peut-être jamais perdu de frère, on a perdu un cousin, ou si on n'a jamais perdu de mère, on a perdu une grand-mère ou un grand-père. Et donc on sait ce que c'est. La douleur de la mort, la personne qui nous manque, ça, on l'a éprouvé dans notre chair, dans notre âme, dans notre psychologie. Mais la perte de nous-mêmes... Globalement, on ne sait jamais ce que c'est. Enfin, on peut avoir des angoisses avant de s'endormir le soir, mais je veux dire, on ne s'est jamais perdu nous-mêmes. Donc ça reste, à mon avis, assez théorique. Et je trouve que c'est important d'en tenir compte, parce qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes là-dessus. D'où le fait que les directives anticipées, d'ailleurs, sont très souples, parce que entre ce que j'aurais envie qu'on fasse de moi quand je serai très malade maintenant, et ce que j'aurais envie dans 20 ans, est-ce que... Ça reste quand même très... Enfin, je trouve que c'est important d'être assez humble, peut-être, par rapport à tout ça, parce que ça me paraît un peu théorique. Alors une fois qu'on a dit que là, ça, voilà, évidemment, il y a un moment où le fait, vous l'avez dit tout à l'heure, évidemment, voilà, l'annonce d'une maladie grave et probablement incurable fait qu'il y a un moment où, voilà, et c'est ce que disait Frédéric Lurie quand il dit, ben, il y a un moment où on est croyant dans le fait qu'on va mourir. C'est-à-dire que jusque-là, on le savait, mais maintenant, c'est encore plus sûr, quoi. Enfin, voilà. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on va forcément mourir de ce qu'on va nous annoncer, parce qu'on peut aussi glisser dans l'escalier en sortant de l'hôpital et que ce soit fini beaucoup plus vite qu'on pense. Mais voilà. Moi, ce qui me paraît important, en tout cas, c'est, je ne sais pas si c'est de définir la fin de vie, mais c'est de ne pas vivre comme ces gens qui vivent en oubliant qu'un jour ils devront mourir. Et vous avez remarqué la citation du grand philosophe qui est Jean-Jacques Goldman dans la belle chanson « Belle, on ira ». C'est la fin du premier couplet. C'est très beau. Ne vivons pas comme ces gens qui oublient qu'un jour ils devront mourir. Parce que moi, c'est une petite chose qui me gêne, et j'aimerais bien qu'on rentre dans le débat sur l'euthanasie, parce que c'est quand même une vraie question. C'est que tout à l'heure, pareil, j'ai entendu Josette dire « Les Français voudraient une loi qui leur permette de choisir ». Alors d'abord, je ne suis pas sûr que ce soit les Français, je pense qu'il y a des Français, mais c'est pareil, pardon, mais je suis un homme de parole, donc j'aime bien la précision des mots, de la même manière qu'il ne faut jamais parler des journalistes et des politiques et des gendarmes et des médecins, mais les médecins, etc. Il y a sans doute quelques Français qui voudraient une loi. J'aimerais bien qu'on débatte sur ce que c'est qu'une loi, ceci dit, générale pour tous dans un pays, etc., etc. Et qui leur permette de choisir. Mais moi, j'ai envie de dire que... enfin. À part que je suis croyant, donc je suis aussi serein que je puisse l'être aujourd'hui. J'en sais rien de ce que je serai quand je serai en train de mourir. Mais je vais dire sans doute que je suis assez prêt à parier que le plus grand choix que les gens voudraient faire, c'est de pas mourir. Et tant qu'on ne pourra pas faire ce choix-là, du coup, alors est-ce qu'on sera vraiment libre? Mais vous voyez, il y a une vraie question philosophique. Je ne pense pas du tout ça. Hein. Je pense qu'au contraire, on est libre parce qu'on sait qu'on va mourir. Mais c'est une vraie question. Enfin, vous voyez, parce qu'on dit qu'il faut choisir, mais choisir, ça reste très limité comme choix. Le vrai choix, c'est de choisir si on peut, enfin, c'est de mourir ou pas mourir. Mais d'ailleurs, c'est assez curieux parce que c'est d'ailleurs les gens qui voudraient surtout pas mourir qui d'ailleurs voudraient choisir de pouvoir mourir. C'est un peu contradictoire, quelque part. Mais je lance juste un peu le débat parce que ça me paraît intéressant.
Je vais peut-être reprendre le débat sur le.
C'était mon intention.
Bien sûr, le terme, c'est pas les, c'est les statistiques ont montré que 96% des Français souhaiteraient avoir le choix. Maintenant, ça ne veut absolument pas dire qu'ils vont choisir de mourir tout de suite.
Ça ne veut absolument pas dire que 96% des
Français. Et ça ne veut pas dire. Bon, le journal La Croix, qui est quand même un journal qu'on lit. 89% quand même des réponses.
Ça dépend comment on pose les questions aujourd'hui, je pense.
Ça dépend, allez-y. Mais enfin, elles ont...
Je vous répondrai après.
Ça a été quand même bien débattu et 89% des Français souhaiteraient quand même avoir le choix. Mais justement, ce
vous
choix...
Vous venez de dire 96 et 89. Alors déjà, il faudrait savoir, quel chiffre est le bon.
Attendez, l'IFOP, on nous a annoncé à nous... Nous étions, c'était nous qui avons manipulé les statistiques. Donc, le deuxième sondage par La Croix, on ne pouvait pas nous dire que c'était nous qui avons manipulé. On a laissé faire. Il y avait quand même 89% des Français qui disaient « Ben non, on préférerait quand même avoir un choix ».
Est-ce que vous pouvez nous redire quelle était la question posée ?
Alors là, je ne peux pas vous le dire
parce
aujourd'hui.
Parce que vous parlez d'un choix, mais de quel choix s'agit-il ?
Le choix, c'est le choix de pouvoir choisir librement sa façon de mourir.
Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que choisir librement sa façon de mourir ?
Eh bien, bon, on va essayer de donner un exemple. Ça va être simple. J'avais une tante qui se voyait se dégrader. Elle avait 95 ans. C'est pour ça que je suis toujours été vécue avec ces gens-là, des gens qui vont mourir. Elle le savait. Alors là, comme vous dites, elle le savait. Mais seulement, elle se voyait se dégrader dans le sens où elle commençait à plus pouvoir marcher, plus pouvoir se lever, plus pouvoir aller aux toilettes toute seule. Et là, j'étais plus jeune et elle me disait, Josette, aide-moi. Je veux mourir tout de suite. Et moi, j'ai dit, ouais. Je ne sais pas ce que je vais faire, moi je ne peux rien faire, je vais aller voir un médecin, on va en parler, mais je n'y avais pas, il n'y a rien, je ne peux pas faire. Et elle pleurait tous les jours, parce qu'elle ne voulait pas continuer à se dégrader. Et elle avait sa tête, elle était lucide. Ça n'a pas été facile, en fait, ni pour elle, ni pour moi. Donc je n'ai pas pu l'aider. Par contre, ma mère qui avait dit « je veux choisir de mourir dans mon lit », et bien là, j'ai pu l'aider. C'était des choix. Et bien moi, je ne sais pas. J'ai écrit que je voudrais choisir de mourir dans mon lit. Mais même M. Leonetti dit pareil. Hein. Moi, je voudrais m'endormir et ne pas me réveiller. C'est ce qu'il dit. Moi aussi, je voudrais bien ça. Mais je ne sais pas si ça va arriver.
La preuve que le lit est un endroit très dangereux, d'ailleurs, parce que c'est là où la plupart des gens meurent.
Voilà. Mais lui, c'était sa phrase. C'est sa phrase aussi, donc je dis la même chose. Mais disons que si j'avais un choix à faire... je crois quand même que celui-là, il est mieux que de finir dégradé, comme j'ai vu ma tante ou comme j'ai vu beaucoup de personnes dans les EHPAD, c'est-à-dire se traîner à peine, de toute façon, on va plus aux toilettes. J'ai vu donc des gens dans les excréments, dans tout, parce qu'on n'a pas le temps de les nettoyer. Donc voilà, c'est ça. Moi, c'est des trucs de choix, je ne veux pas de ça.
Mais pardon pour finir, c'est parce que le docteur Durieux, vous demandez la réponse à la statistique, c'est la réponse à quelle question, et vous voyez combien c'est imprécis. Pardon, excusez-moi, mais ça me paraît important de... Et donc ça dépend comment... Un exemple très rapide, mais et alors c'est pas du tout une polémique ou je sais pas quoi, mais c'est très intéressant de voir que dans la question par exemple du mariage pour tous, vous voyez, on a dans le même questionnaire, on a demandé aux gens si ils étaient pour l'adoption par des couples homosexuels, et la plupart des gens, je sais pas quoi, il y avait 75% des gens qui étaient pour. Bon, on pourra faire un autre débat là-dessus si vous voulez un jour, mais c'est juste comme exemple statistique, c'est pas sur le fond du problème, et il y avait on posait par ailleurs la question de savoir aux gens s'ils pensaient que c'était important qu'un enfant grandisse avec un père et une mère, et il y avait aussi 75% de gens qui répondaient oui, mais vous voyez bien qu'il y a une petite incompatibilité entre les deux propositions, et de, ça dépend comment on pose la question aux gens, enfin vous voyez, c'est-à-dire, la question c'est est-ce que vous voulez être accompagné. Moi j'ai travaillé pendant 3 ans, j'ai été visiteur pendant une journée, une fois par semaine, en soins palliatifs, c'était au milieu des années 90, dans le service docteur Buchner à l'hôpital Saint-Michel de Bruxelles où j'habitais à Le Mans. Voilà. Et la plupart des gens venaient en espérant que dans un service de soins palliatifs, parce qu'ils avaient compris que ça s'agissait cela, on les aiderait à mourir dans les 24 heures ou les 48 heures où ils seraient admis. Et puis une fois qu'ils avaient compris qu'ils étaient dans un service où on les accompagnait, où on les écoutait, où on prenait soin d'eux. Alors j'entends bien que ça demande... du personnel, et donc qui dit du personnel de l'argent, et qui dit de l'argent dit des choix, mais il y a un moment, il faut faire des choix de société, enfin vous voyez, il faut savoir si on met 10 milliards dans les transports ou si on met 10 milliards dans l'hôpital, enfin c'est un moment où on peut faire des choix comme ça, bon voilà, et donc il y a des choix de société qui permettent de faire ces choses-là, mais c'est juste pour dire que selon comment on pose la question aux gens et dans quel contexte, c'est très important de voir que l'imaginaire de ce qu'est leur propre mort fait aussi qu'un certain nombre de gens diront « mais je veux qu'on m'euthanasie, quoi ». C'est un peu plus complexe que ça. Bon, voilà.
Oui, c'est ça. C'est... Bon, je ne veux pas souffrir. Je ne veux pas mourir, à la limite. Je veux plutôt mourir que d'avoir des douleurs que de souffrir. Je pense que c'est même pas 89%, c'est 100% des habitants de la France qui peuvent dire ça. Alors moi aussi, je suis dans une maison de retraite, je dis, moi, vieillir comme ça, jamais. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir cette phrase. J'étais peut-être plus jeune, mais maintenant je me pose effectivement la question. Je dis non pas que je suis à la porte d'arriver dans une maison de retraite, mais il est sûr qu'on va évoluer. Moi, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a cette évolution. Quand on est malade, on n'est plus porté par cela, on est porté par autre chose, on est porté, je dirais moi, par l'espoir. C'est l'espoir de guérison, l'espoir de rémission, l'espoir, comment dire, de vivre encore davantage, et puis dans des conditions qui soient acceptables. Et je pense que c'est ça le problème, et c'est ça qui va nous définir, si vous voulez... une autre façon de raisonner, une autre optique, et peut-être même, aller un peu jusqu'au bout de la vie, quoi. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Bon, moi, je peux aussi, j'aurais pu citer aussi l'exemple de ma mère, qui, elle, voulait absolument pas mourir et qui voulait une chimiothérapie jusqu'à sa phase d'agonie. Je pense qu'elle était portée par l'espoir en permanence. Je pense que c'est ça aussi dont il faut faire attention, parce que on évolue terriblement quand on a une maladie. Et là, on a peut-être un débat de bien portant, si j'ose dire. Mais quand on est malade, on a tout à fait autre chose à dire.
Alors, on arrive en fin d'émission. Alors, justement, on peut parler de l'espérance, de l'espoir. Ça, c'est aussi bien pour les malades, mais aussi bien pour nous, ensemble. Donc, en tout cas, merci d'être venu pour expliquer à nos auditrices et auditeurs ce qu'est la fin de vie. Peut-être qu'on aura la possibilité d'aller plus loin, peut-être dans l'avenir.
Sans doute qu'en une heure, c'est un peu juste.
C'est un peu juste, il faut le reconnaître, mais bon, c'est le temps qui nous est imparti. En tout cas, tous nos auditrices et auditeurs peuvent aller sur 3 www.radiograndciel.fr et donner leur avis sur cette émission. Et si des questions particulières nous sont posées, eh bien, on pourra leur faire un courrier pour répondre plus précisément à leurs demandes. Merci, à bientôt.
Merci.
Merci.
Merci.